société avec Nick Payne.
Bonjour, bienvenue à Société, merci d'être à l'écoute. Eh bien, aujourd'hui à l'émission, dans quelques instants, nous commentons l'actualité politique avec les deux Fred. Et un peu plus tard à l'émission, nous revenons sur l'affaire Facebook en Australie. C'est tout de même un dossier fort intéressant et fascinant à certains égards et peut-être annonciateur de ce qui attend les médias, les grands médias canadiens face aux nouvelles puissances du web. On en reparlera dans l'émission avec Nelly Brière et en terminant l'émission également, Nicolas Vidal en direct de Paris nous parle de cette spectaculaire condamnation à la prison de l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, pour corruption, imaginez. On va s'informer davantage là-dessus avec Nicolas Vidal, lui demander quelle est la part de... Y a-t-il une part de spectacle ou de lutte politico-judiciaire dans ça, ou est-ce que c'est complètement mérité, si j'ose dire, pour l'ancien président Sarkozy? Mais allons tout de suite rejoindre ceux qui ne méritent quand même pas d'être en prison, quoique, on ne sait jamais. Ça dépendra de ce qu'ils vont nous dire aujourd'hui. Frédéric Bérard, déjà chroniqueur au journal Métro, avocat. Bonjour, Frédéric Bérard.
Salut, Nick Payne.
Et parce que j'y vais toujours en ordre alphabétique, Frédéric Lapointe, ancien candidat dans Maurice Richard, fondateur de la Ligue d'Action Civique. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous n'êtes pas passible, vous, de condamnation comme Nicolas Sarkozy, j'espère. En tout cas, on essaie de choisir des gens fréquentables.
Oui, c'est... Selon certains de vos auditeurs, je ne passe pas cette... je n'ai pas cette réputation de fréquentable. Mais bon, non, je n'ai pas été accusé de rien. En tout cas, pas à ce moment-ci.
Oui, bon, disons quand même pour nos auditeurs de façon plus large qu'on parle toujours des deux ou trois mêmes personnes sur Facebook qui viennent vous chicaner. Hein? Faut quand même pas exagérer, là. À moins que d'autres vous détestent en silence. Mais ça, c'est le cas pour nous tous, hein, quand on fait... Quand on donne notre avis dans les médias. En tout cas, enfin, j'espère. Juste, parlons donc un peu quand même de la situation, j'allais dire pandémique, sanitaire, parce qu'on n'aborde pas toujours ce sujet-là dans cette émission. On a fait le pari de parler d'autre chose, hein, de parler de la vie qui continue en dehors de ces problèmes-là. Mais là, tout de même, Frédéric Lapointe, je commence avec vous en ordre désalphabétique. Là, vraiment, la fameuse lumière au bout du tunnel... hormis cette course entre les variants et les vaccins, V contre V, est-ce que vous la voyez, vous la sentez, la lumière au bout du tunnel?
Oui, on la sent, mais on ne sent pas que tout le monde veuille en sortir. Je m'explique. Plusieurs craignent que les gens qui sont vaccinés puissent avoir accès plus vite que d'autres au restaurant, au gym, aux salles de spectacle. Et certains crient au manque d'équité, au manque d'égalité, à tout le débat autour du passeport vaccinal. Alors, je vous dis tout de suite, moi, ce que j'en pense. Je pense qu'il y a des raisons sanitaires pour confiner, mais s'il n'y a plus de raisons sanitaires pour une certaine partie de notre population, ce ne sera pas au nom de l'équité là, qu'on va enfermer les gens chez eux là, en couvre-feu, les empêcher de vaquer à leurs occupations ou s'occuper de leur santé. Alors, il y a des enjeux politiques dans le déconfinement et dans la sortie du tunnel, manifestement.
Vous voulez dire que même si à terme, finalement, on va probablement être pas mal déconfiné, c'est dans la séquence que le piège ou la difficulté politique peut se trouver pour François Legault?
Oui, il a évoqué, si je ne m'abuse, en début de semaine, hein, l'idée d'un passeport vaccinal pour s'assurer que les gens qui progressivement vont profiter de grandes tables au restaurant ou encore se retrouver en plus grand nombre dans des piscines suivant des horaires particuliers. Bref, qu'on puisse donner accès à la vie normale aux premières personnes qui sont vaccinées. Eh bien, ça semble porter à débat. Hein. Le chroniqueur Claude Villeneuve a dénoncé cette idée et je me suis personnellement étonné de ça. Est-ce qu'on s'est à ce point habitué aux mesures sanitaires qu'on veut absolument les subir tous ensemble dans l'égalité jusqu'au bout? Je ne suis pas de cet avis.
Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Bérard? L'égalité tous ensemble jusqu'au bout, comme disait Manon Massé autrefois, répartir la misère également. Elle avait fait ce lapsus, j'avais trouvé ça comique. Ou est-ce qu'au contraire, on y va de façon asymétrique et ceux qui peuvent se déconfinent grâce à, par exemple, un passeport vaccinal? Il y a des intellectuels français, notamment, qui prônent ça depuis longtemps, une forme de Enfin, c'est autre chose. Ils prônent une sorte de confinement volontaire pour ceux qui sont encore à risque ou qui côtoient des personnes à risque. Est-ce qu'on pourrait fonctionner comme ça?
Moi, je suis pleinement d'accord avec avec Frédéric. Là, j'ajouterais une espèce d'argument utilitariste ici, hein, le bonheur du plus grand nombre. Ça serait un peu bête quand même de rester encarcané jusqu'en, je sais pas, juillet ou septembre, tous ensemble, du fait que certains n'ont pas encore reçu le vaccin, même si on s'entend que nous trois, ce midi, allons nécessairement être en fin de liste là, pour ce même vaccin. Mais reste que...
Oui, puis on sait pas, on va peut-être avoir le vaccin Dolorama ou je sais pas quoi, le moins bon.
Ça, c'est pas impossible non plus, remarquez bien, mais tout ça pour dire que moi j'ai clairement, espoir, voyez-vous, il y a maintenant 6% des Québécois qui ont été vaccinés. Ça semble assez peu, mais hier encore, il y avait plus de 19 000 vaccins qui se sont donnés. On a les vaccins d'AstraZeneca qui ont été approuvés, celui de Johnson & Johnson aussi. Donc avant longtemps, on va s'enfarger dans ces vaccins-là, probablement quand... Je dirais fin avril, fin mai, en tout cas, au plus tard fin mai, il y a une portion appréciable de Québécois qui vont déjà avoir été vaccinés et ça concordera directement avec l'arrivée de graduelle de l'été. Donc, c'est une excellente nouvelle. Pour le reste, comme disait Frédéric, ben oui, et je sais que c'est un peu curieux de dire ça, c'est fâchant pour ceux et celles qui n'auront pas été vaccinés à ce moment-là, ce qui risque d'être notre cas. Mais la vie doit reprendre, là. Et par exemple, les salles de spectacle, et ainsi de suite, je pense qu'il y a beaucoup de fric. Il y a une industrie, là, qui est énorme, l'industrie culturelle au sens très, très, très large, qui ne pourrait pas subir un deuxième été de suite. Dans l'espèce de gouffre là, dans lequel on était l'année passée.
Sauf que, Frédéric Lapointe, les experts, les épidémiologues et autres experts, par exemple, en vaccination, vont nous dire qu'il y a tout de même un risque important à se penser bon là, à ce moment-ci, puis éventuellement à permettre aux variants de prendre le dessus sur la course, dans la course contre avec la vaccination, si on veut. Pensez-vous qu'on est à risque d'ouvrir un peu trop, comme on l'a fait malgré le gouvernement dans le temps des fêtes, par exemple?
Ben, on se souviendra que les experts en santé publique, ils sont prudents. Hein? Ils ne veulent pas formuler des conseils qui feront en sorte que la population devient délinquante, cesse les conduites prudentes de distanciation ou de port du masque et que la situation devienne difficile à contrôler par les autorités, par les politiciens. Et la peur des variants, ma foi, est bien pratique. qu'on sache, les variants ne sont pas... s'ils se propagent plus facilement, ben, un variant va en remplacer un autre là, dans l'écosystème des virus, si j'ose dire. Mais on n'a pas observé, j'ai pas entendu un seul expert ou lu un seul article disant que ces variants étaient particulièrement plus dangereux hein, pour la santé.
Bon, on parle par exemple du variant sud-africain là, qui serait plus contre lequel le vaccin AstraZeneca, par exemple, serait moins efficace. Donc, il semble qu'il y ait certains risques tout de même malgré la vaccination. Mais vous pensez quand même que le temps est venu de d'ouvrir un peu le robinet de la liberté. Là.
Oui, ben tout ça va se faire progressivement et un peu comme lorsque, je sais pas moi, en ski, vous avez une pente un peu plus abrupte. Autrement dit, lorsque les gens ont des raisons d'être tentés de reprendre des activités normales, de se rencontrer plus souvent, de rappeler leur vieille blonde, chose qu'ils ne peuvent pas toujours faire. Ben voilà, donc là on entend une conférence de presse du premier ministre qui dit attention, il y a des variants, hein, il y a des variants. Donc faites attention, là, tout pourrait basculer. Bon, tout n'est pas en train de basculer, mais il convient de continuer à être prudent de façon constante. Et encore une fois, les variants sont très utiles pour garder les gens un peu sur les orteils.
Pensez-vous aussi, Frédéric Bérard, qu'on est davantage dans le message, dans la prévention à ce moment-ci? On veut pas trop lâcher de lest pour des raisons politiques que sanitaires, là, sans politique au sens noble, là, c'est-à-dire qu'on veut gérer la chose correctement jusqu'au bout et ne pas l'échapper pour vrai. Donc, on dit aux gens, parce que c'était, j'écoutais le ministre Dubé cette semaine, il semblait quand même très, très préoccupé par la question des variants?
Ben, je trouve ça difficile à répondre, n'étant pas moi-même scientifique. Et puis, les scientifiques en question forment une communauté parfois un peu disparate. En même temps, Arruda est si préoccupé que ça, mais c'était quoi l'idée?
Ou même M. Arruda, votre préféré, mais qui était catégorique là-dessus, lui aussi.
C'est justement ce que j'allais dire. Il essaie d'alarmer les gens alors que tout démontre que pendant toute cette crise-là, c'est lui qui était le plus laxiste. Juste par exemple, le cabinet Legault.
Ça devrait le rendre plus crédible quand il dit qu'il faut encore faire attention.
On peut le voir comme ça, mais moi, en fait, ça fait un petit bout de temps que j'ai conclu que ce gars-là, tout ce qu'il dit essentiellement, c'est un mélange de bouffonnerie et de spectacle un peu. Moi, j'aime mieux me fier un peu à ce que dit, je dirais, la communauté scientifique, même si elle est disparate. Pour moi, le Arruda est brûlé, c'est fini, c'est réglé. Une fois qu'on a dit ça, par contre, est-ce que, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que ces variants-là sont plus dangereux? Il y a apparemment des formes peut-être un petit peu plus mortelles. Ça va. Mais en même temps, les vaccins qui ont été approuvés, puis on est rendu à 4, de ce que je comprends, sont très efficaces contre les formes les plus graves de la maladie. Et quand on dit beaucoup plus efficace, ça, c'est pas juste un peu. À AstraZeneca, il y avait un doute et finalement, l'Allemagne a révisé sa position, la France aussi, je pense. Donc, en théorie, même les variants ne devraient pas être capables d'outrepasser. Si
moi,
j'ai
compris aux dernières nouvelles qu'en France et en Allemagne, on n'administrait pas AstraZeneca, mais nous allons vérifier.
L'Allemagne a changé sa position.
Et puis évidemment, l'Angleterre, c'est une toute autre affaire. Le vaccin vient de là, donc on s'est AstraZeneca à fond. terminons là-dessus, Frédéric Lapointe, parce que Frédéric Bérard pose la question. Le docteur Arruda, êtes-vous aussi critique, vous, de l'ensemble de son œuvre jusqu'ici? Et si oui ou non, je ne sais pas, mais par ailleurs, est-ce que vous trouvez le ministre Dubé performant, à l'aise dans sa tâche jusqu'ici, si on le compare à Mme McCann, qui s'est quand même faite démettre de façon assez humiliante en plein milieu de la crise?
Oui, enfin, le commentaire interne au sein de la CAQ, c'est qu'il fallait un gestionnaire avec plus de poigne, plus d'autorité. Et il ne, cela dit, il n'en fait pas le spectacle. Donc, c'est vraiment, c'est pas pour gérer l'image qu'ils l'ont fait, c'est vraiment pour des qualités managériales nécessaires en situation de crise. Mais donc, pourquoi est-ce que le ministre de la Santé apparaît plus contrit, apparaît plus empathique, apparaît plus prudent? Il est sous observation au sein du ministère de la Santé, dans le réseau de la santé, par les syndicats, par les employés. Et donc, imaginez le contraire, là, c'est-à-dire imaginez un ministre de la Santé qui se mettrait à dire « Ah, ben tout va bien, il n'y a rien là, les variants, on va en faire notre affaire ». Ce serait complètement dissonant avec l'anxiété qui est vécue par les employés dans le milieu de la santé. Donc, c'est comme ça que je comprends son comportement. Non seulement il cherche à ce que la population maintienne une certaine discipline, mais il veut se montrer prudent face à ces soldats qui sont au front, et ce sont les travailleurs de la santé, les travailleurs et travailleuses.
Et donc, lui donnez-vous une bonne note jusqu'ici?
Oui, tout à fait.
Et M. Arruda, parlez-nous.
Dans le cas de M. Arruda, moi, je n'ai pas été un fidèle de ses prestations.
De ses tartelettes, non?
Oui, mais vous savez, tout ce divertissement qui a rendu la chose peut-être un peu plus légère auprès de certains, ça sert une fonction mémorielle, je dirais. S'il a versé dans la caricature à quelques occasions, un peu comme le col roulé, qui n'était pas particulièrement utile, le col roulé d'André Caillé et de Lucien Bouchard durant la crise du verglas en 1998. Ouais. Alors, il y a des choses comme ça là, qui vont passer un peu dans la mémoire populaire. Mais moi, je lui lance pas de tarte pour autant.
Bon, pas de tartelette non plus. toujours sur le front de la pandémie, mais en glissant vers la politique, François Legault, cette semaine, il a donc commenté ce remplacement de Mme McCann par M. Dubé, on vient d'en parler. Il est aussi revenu sur, il a émis à nouveau une forme de critique à l'endroit de Justin Trudeau en disant, en début de pandémie, il aurait fallu fermer les frontières plus vite. Ce que M. Trudeau n'a pas fait. Donc, tirez-en vos conclusions. C'était quand même une critique assez sévère, assez dure. Frédéric Bérard, est-ce qu'elle est justifiée d'après vous et est-ce qu'elle nous annonce déjà le Legault qui pèse de tout son poids dans la prochaine élection fédérale?
Moi, ce qui me... En fait, là-dessus, bon, première des choses, effectivement, Justin Trudeau a tardé avant de fermer les frontières. Ça, ça fait pas de doute. C'est démontré. Ça, pour moi, c'est même prouvé scientifiquement. Merci, bonsoir. Maintenant, ce qui est fatigant là-dedans, c'est cette espèce de néo-propension de Legault, et il l'a fait encore récemment dans une entrevue, dans quelques entrevues de fond, là, pour souligner, entre guillemets, l'anniversaire de la pandémie, en disant, moi, je sais pas ce que j'aurais pu faire de plus. Et là, il tombe dans ce qu'on appelle cette espèce d'arrogance du pouvoir qui est déplorable et qui suit chaque politicien ou presque après un certain temps. Donc, François Legault, lui, il y a rien dans sa gang, il y a personne, tout est beau, tout est correct. Tu sais, Arruda était au Maroc en train de discuter des méfaits de la marijuana. Il disait, oh non, inquiétez-vous pas, la grippe, c'est pire que ça.
Bien, c'est important, les méfaits de la marijuana, mais quand même, on sentait que M. Legault, parce que c'est le chef d'un gouvernement, c'est le patron d'une équipe aussi, et on sentait qu'il pesait ses mots dans le cas de Mme McCann, mais il y avait quand même une critique assez, entre les lignes, assez dure de son travail.
Mais pendant longtemps, François Legault nous a dit, oui, on a beaucoup de morts, mais la grande majorité, c'est dans les CHSLD. Comme si les gens des CHSLD, comme si nos personnes aînées n'étaient pas elles-mêmes partie prenante de la société québécoise. Comme s'il y avait une espèce de catégorisation. Je trouve ça d'un mépris, mais total pour ces gens-là. Et ce qui est plus fâchant là-dedans, c'est qu'il n'y a jamais eu, Nick, de solution en rapport à ces CHSLD-là. Rien, puis une barre, zéro. Marguerite Blais, qui est une ministre, mais impotente au sens intersidéral du terme, est encore en place. Tout ce qu'elle a fait depuis 10 ans, parce que là, en fait, on lançait des roches aux libéraux, en oubliant évidemment que la ministre des libéraux pour les aînés était aussi Marguerite Blais. Tout ce qu'elle a trouvé à faire, c'est de leur envoyer des clowns puis de trouver ça drôle. En fait, c'est à peu près la seule qui a trouvé ça drôle, son truc de clown, probablement. Et là encore, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de solution. On dit, oui, mais là, ça va mieux des CHSLD parce qu'il y a des vaccins. Oui, je comprends bien, mais la prochaine pandémie, vous allez faire quoi?
Mais il y a quand même eu diverses décisions de prise, notamment cette un peu sur un coup de tête, là, cette offre de M. Legault pour recruter de façon expéditive des gens pour aller travailler dans les CHSLD. Ça a quand même produit des résultats, ça.
Vous que je vous en parle de ça?
Allez-y donc.
C'est un de mes meilleurs amis, moi, qui s'est enrôlé, parce qu'on va appeler ça s'enrôler à ce moment-là, c'est une mission. Mm-hmm. Ils sont à peu près 25 à débuter, ils sont 3 ou 4 à finir le cours. On leur a miroité des salaires de 24-25 de l'heure, alors que dans les fonds, on est plus dans le 19-20. On a renié ces promesses-là. On leur a donné absolument aucune ressource. Et l'ami en question dont je vous parle travaille avec ses heures supplémentaires entre 65 et 85 heures semaine au moment où on se parle. Mmh. Et il n'y a pas eu d'autres ressources depuis. Et il m'expliquait, j'ai écrit un article dans le métro cette semaine là-dessus, que quand on critiquait les CHSLD, il dit oui, il faut nous critiquer, mais s'il vous plaît, critiquez pas les employés, critiquez pas les préposés aux bénéficiaires ou les infirmières. Arrive un moment donné où parfois, les gens qui en mouraient, c'est parce qu'il y avait un médecin qui venait nous voir aux 3, 4, 5 jours. Ça, c'est pas un problème de ressources qui pourrait être payé dans une société riche comme la nôtre, je ne sais pas c'est quoi. Or, François Legault, tout ce qu'il a toujours à faire dans les CHSLD, c'est oui, on va en engager d'autres pendant un petit bout de temps, un peu. On va leur faire miroiter des salaires qui n'existeront pas. On va appeler aussi l'armée canadienne de Trudeau pour venir en renfort. Tu sais, quand tu es obligé de faire venir l'armée dans tes CHSLD, en temps normal, c'est que c'est géré un peu tout croche, puis pas juste un peu. Donc, une fois qu'on a dit ça, aller lancer la roche à Trudeau, dire, ah oui, mais c'est parce qu'il n'a pas fermé les frontières assez vite, c'est franchement, là.
Frédéric Lapointe, êtes-vous aussi franchement en désaccord avec le bilan que fait François Legault de sa propre action? Et pensez-vous qu'il est déjà en campagne électorale contre Justin Trudeau?
Oui, bon, ce serait un grand classique en politique québécoise que un premier ministre sortant se serve du premier ministre du Canada comme repoussoir là, pour fédérer son électorat. Il est clairement... dans la répétition, là, on comprend qu'il est clairement là-dedans. En ce qui a trait au problème des CHSLD, je veux souligner deux choses. La première, c'est que les caquistes ont hérité d'une gestion doublement déficiente de la part du gouvernement libéral, de la part du Dr Barrette et de sa réforme. L'un des aspects les plus déficients, c'est la réduction drastique de l'administration. Parfois, on dit que le gouvernement coûte trop cher à administrer, ben voilà. Donc là, on a fait la preuve que lorsque vous avez des établissements où il n'y a aucun cadre de responsable, où il n'y a aucune capacité d'initiative, où il n'y a pas de reddition de comptes, eh bien, il y a des choses qui sont effectivement tout croche, qui peuvent se passer. Et une des premières choses que les caquistes ont fait après avoir observé tous ces cafouillages, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient imputables établissement par établissement. La deuxième chose, c'est que quelques années avant cette pandémie qui nous frappe, le gouvernement libéral a coupé littéralement 30% du budget de la santé publique au Québec. Je connais des gens qui y travaillent. Ils ont passé 6 à 12 mois simplement à retrouver un bureau sur lequel travailler et à avoir des responsabilités claires. Alors, le système de santé, là, pour vous dire, ça ressemblait à l'armée soviétique après les purges staliniennes. Alors, c'est pas surprenant que ce soit fait traverser au premier virus venu.
Et on a décidé de garder la même ministre des Aînés, comme dit Frédéric Bérard, mais ça, c'est un autre dossier, finalement, bien accessoire devant ce portrait assez sombre que vous dressez. Puisqu'on parlait de Justin Trudeau, il est un peu à la fois heureux et mal pris cette semaine. Bien sûr, les vaccins, ça va mieux que prévu. M. Trudeau, semble-t-il, a mis au point sa technique de gestion des attentes, là. Il promet moins pour obtenir plus, un peu à la Jean Chrétien, dit-on, puisque les vaccins, bien là, ça se passe mieux que prévu. Par contre, il y a cette histoire d'inconduite sexuelle de la part du général Vance de l'armée canadienne. Le ministre Sajjan a-t-il ou non été mis au courant? Attends, qu'est-ce que c'est que ce salmigondi, cet imbroglio? Que se passe-t-il, Frédéric Bérard? Et vous qui êtes quand même notre spécialiste de notre antenne woke ici à l'émission, dites-moi... Vous savez bien que j'aime vous dire ça, mais sans farce, je choisis quand même de vous en parler à vous en premier à dessein. Que va faire Justin Trudeau? Il est mal pris, là. Il congédie un ministre qui incarne la diversité avec son turban et tout le reste. Ou il garde un ministre qui a levé les yeux sur des questions d'inconduite sexuelle dans l'armée. Ça va pas bien, son affaire.
Des inconduites sexuelles dans l'armée, on s'entend bien là, que ça fait quelques années qu'on en parle sérieusement, mais ça fait des tonnes d'années qu'on sait très bien que ça existe. Il y a de la jurisprudence là-dessus, l'affaire Robichaud, entre autres, qui est une grosse décision de la Cour suprême.
Rappelez-nous-la.
Ben, en fait, en gros, c'est que c'était, il y avait eu exactement ça, à vrai dire, là, une soldate, hein, je pense qu'on peut dire ça, mm-hmm. comme ça, qui avait été agressée par un supérieur. Elle poursuivait évidemment le supérieur en question qui avait été congédié, mais aussi l'armée. Or, là, c'est une question d'interprétation des lois qui est un peu technique et pas très intéressante, mais faire une histoire courte, la Cour suprême a élargi, mais de manière magistrale, la loi sur la protection des droits de la personne ici pour y inclure la responsabilité du fédéral, c'est-à-dire la défense ici, dans une affaire absolument, je vous dirais, assez magique dans l'optique où personne n'aurait pu prévoir que ça aurait été le cas. Donc, c'est un message très fort de la Cour suprême qui disait, essentiellement, là, ça va faire les inconduites sexuelles. Vous allez être tenu responsable, même si vous n'avez rien à vous reprocher précisément, là, même si les autres supérieurs ou le ministre ou peu importe qui n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé. Je m'en fous, c'est ce qu'on appelle un régime de responsabilité sans faute, un peu comme on a ici là en matière de conduite automobile au Québec, et puis ça vient de se terminer là. Donc, en d'autres termes, c'est un message qui était excessivement puissant. Est-ce que ça a suffi à assainir les mœurs? De toute évidence, non, parce que les rapports subséquents ont quand même été très clairs là-dessus. Donc ici, Trudeau est vraiment dans une position qui est, je pense, assez difficile, parce que toute la question de la preuve, est-ce que c'était clair, est-ce que c'était pas clair, est-ce que le ministre savait tout ça?
Bon, alors là, le l'ombudsman militaire Gary Walborn, lui, a dit encore cette semaine qu'il avait spécifiquement informé, il y a 3 ans, le ministre Sajjan, de cette affaire d'allégation d'inconduite. Et puis là, on rétorque que, ben en fait, on le savait, mais à moitié, l'ombudsman a négligé nous envoyer davantage d'informations. En fait, tout ça a l'air d'un jeu de ping-pong, là, où tout le monde se renvoie la balle, la patate chaude.
Mais ça c'est classique, et là, je ne prends pas la défense de personne. Ce que j'essaie de dire, c'est que pour agir légalement parlant, ben il y a des questions de preuve qui sont souvent problématiques, là, davantage que la simple perception médiatique de l'affaire. Donc, si ceci était démontré, ben là, je pense qu'effectivement, Trudeau n'a pas d'autre choix que d'envoyer un message clair, parce qu'on est en 2021, là, pour reprendre la formule dans un premier temps, parce que l'armée canadienne s'est connue, puis parce qu'arrive un moment donné où si t'es pas capable de t'attaquer aux têtes, hein, probablement qu'il n'y a absolument rien qui changera parce qu'on sait qu'un poisson pourrit toujours par la tête en premier, et puis voilà.
Frédéric Lapointe, pardon de penser à vous sur cette fin de phrase, mais ça n'a rien à voir avec cette expression assez forte. Mais dites-moi, si je reviens à ma question de départ, si le ministre de la Défense s'appelle Jean-Guy Brochu. Justin Trudeau le limoge-t-il, contrairement à ce qu'il fait pour le moment, c'est-à-dire qu'il patine?
Non, bien, dans toutes ces questions, je suis d'accord avec Frédéric que lorsque des ministres, des sous-ministres ou des gens en position d'autorité dégradée sont informés de potentielles allégations ou d'événements qui auraient pu, dans le passé ou dans un présent, des rumeurs de cette nature-là, on nage dedans parce qu'il y a un réel problème. Mais est-ce que, pour autant, ces personnes pouvaient raisonnablement prendre des actions décisives sur la part des faits avérés dont ils disposaient? Ce n'est pas certain. Plusieurs situations sont dans le gris. Il se peut qu'ils aient attendu qu'il y ait un processus de plainte qui s'enclenche, qu'ils aient attendu de recevoir plus d'informations. Et donc, de l'extérieur, on peut avoir l'impression que des gens ont fermé les yeux, alors que dans les faits, il se peut qu'ils n'aient simplement pas eu suffisamment d'informations pour prendre des décisions qui, faut pas se le cacher, là, ont des effets potentiellement dévastateurs sur les milieux de travail, sur les individus qui sont sujets à ces allégations. Et donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit traité à la légère. Donc maintenant, mettons-nous à la place du premier ministre. Il y a des ministres qui ont eu à faire des jugements, à prononcer des jugements, entre guillemets, prendre des décisions dans des contextes flous, des contextes gris, qui ne peuvent pas être compris de l'ensemble de la population parce que toutes les informations, j'imagine, ne peuvent pas être rendues publiques. Et donc, à l'occasion, oui, un premier ministre doit défendre ses ministres qui sont exposés à ces situations-là où ils sont à risque.
Mais là, Frédéric Lapointe, je vous rappelle que c'est...
un peu qu'ils aient à les sacrifier.
Mais ce premier ministre est Justin Trudeau, c'est l'homme de la modernité, parce que nous sommes en 2000, je ne sais plus combien, qui est vraiment résolument campé chez ceux qui disent « on vous croit, s'il y a apparence, doute sur des questions comme celle-là, on ne prend pas de chance, puis on vous congédie, on vous sort du portrait, enfin, on vous cancelle d'une certaine façon. »
Je comprends.
M. Trudeau n'est pas à la hauteur de ses... des attentes qu'il a créées sur celle-là.
Je comprends qu'il a fait son lit là et peut-être qu'il gagne en expérience et qu'il mesure ce qu'il peut en coûter lorsqu'on est un premier ministre et qu'on a à prendre des décisions difficiles, de faire son lit d'avance sur toutes ces questions et de risquer de décevoir. Vous ne pouvez pas dire comme chef de gouvernement, et là c'est plus mon sens d'État qui ressort, dire comme chef de gouvernement, dire à n'importe quel groupe d'intérêt, ben dès que vous allez pointer quelqu'un du doigt, je vais le flinguer et je vous le promets, et c'est sûr que je vais le faire. Ben non, c'est pas responsable de dire une chose comme ça.
Oui, bien évidemment, à partir du moment où vous faites un blackface vous-même, ça devient compliqué, effectivement. Il nous reste quelques instants. Puisqu'on est au fédéral, pourquoi je pense qu'on peut pas ne pas parler de cette candidature de Ensaf Haidar. Alors ça, c'est la femme de Raif Badawi qui, on le sait, est emprisonnée en Arabie Saoudite. Donc sa femme est dans les démarches ici depuis des années pour essayer de faire libérer son mari. Et elle compte maintenant se présenter à l'enseigne du Bloc québécois en politique fédérale. Frédéric Bérard, qu'est-ce que ça vous dit, ça? C'est étonnant en même temps. Parti souverainiste, est-ce que c'est une forme de rebuffade à l'endroit d'Ottawa? Elle trouve que ce que le gouvernement Trudeau se traîne les pieds dans le dossier Badawi?
Ben, je ne sais pas. Faudrait lui demander à elle. Est-ce qu'elle est devenue souverainiste? Peut-être que vous imaginez.
Bon, ça, vous savez, pour être au Bloc, c'est peut-être pas si nécessaire que ça.
C'est vous qui le dites.
Oui, c'est moi qui le dis. Il y a à peu près juste moi qui dis ce genre d'affaires-là.
Oui,
donc,
moi, je m'en remets à vous. Vous êtes le spécialiste. Mais elle a témoigné dans le procès de la loi 21. Je vais faire attention à ce que je dis. Je n'ai pas trop compris dans le sens où je ne vois pas trop les liens entre le Québec et l'Arabie Saoudite. Là. Mais bon, est-ce que là, créer des affinités avec certains membres du Bloc, de toute évidence, oui.
Ben, est-ce que c'est justement de par cette position en faveur de la loi 21, qui est à peu près unique au Bloc, au fédéral, hein? On imagine mal, au fond, cette femme se présenter pour les libéraux de Justin Trudeau?
Oui, moi, j'accueille sa candidature. Je ne sais pas si c'est avec plaisir ou ben, entre tant mieux pour tout le monde. À vrai dire, je suis un peu indifférent. La seule chose que je n'aime pas entrevoir ici, c'est l'espèce de récupération, d'instrumentalisation où là, on va essayer de nous faire croire qu'il y a un lien entre justement le régime de terreur de l'Arabie saoudite et le climat actuellement au Québec en rapport à la loi 21. Et François Blanchet a surfé la dernière campagne sur cette même loi en disant « la laïcité, c'est nous », comme si avec quoi que ce soit à voir au fédéral là-dedans, comme si le fédéral pouvait changer quoi que ce soit ici, alors que...
Ben là, cette candidature-là vient lui donner une sorte de voilà, d'imprimatur quand même. Ouais, puisque le temps nous bouscule, Frédéric Lapointe, oui. qu'est-ce que vous en pensez, vous?
C'est la démonstration que même des gens qui sont d'immigration récente, hein, c'est le cas de madame, peuvent trouver des familles politiques dans toutes les directions, y compris du côté des indépendantistes québécois.
Mais je comprends, mais elle a une cause, là, cette...
Oui. Du côté anglophone et du côté du Canada anglais, mais dans tous les partis politiques au Québec, là, on observe ça. Et donc, sans dire que c'est un non-événement, ben c'est une chose qui finalement est assez naturelle. Les gens qui arrivent au Québec se trouvent des familles politiques et Mme Haider a décidé de se présenter pour le Bloc québécois.
Non, mais je voulais dire que son mari est en prison en Arabie saoudite. Il reçoit des coups de fouet. Dieu, ben c'est étonnant tout de même de se mettre en travers d'une certaine façon ou en froid avec le gouvernement canadien.
Non. Ce qu'on comprend ici, c'est que ce sont des gens qui étaient très politisés. Hein. S'ils se sont mis dans le trouble en Arabie saoudite, là, ils devaient être assez motivés là, pour faire ce qu'ils faisaient. Donc, ce sont des gens très motivés politiquement. Et par ailleurs, elle s'assure de mettre à l'ordre du jour la question de son mari en étant une personnalité publique, en étant une personnalité politique. Et donc, oui, c'est un embarras pour le Canada et pour l'Arabie saoudite, mais en étant candidate, elle pousse sur le dossier de son mari indirectement.
Alors, on en reparlera sans doute. Chers amis, les deux Fred, merci d'avoir commenté l'actualité politique pour nous et à la semaine prochaine.
Au plaisir.
Salut, au revoir. Dans un instant, Nelly Brière, spécialiste en médias sociaux, réseaux sociaux, je vais trouver un titre plus adéquat. Je vais regarder sa bio pendant le bref intermède. Elle nous parle, bien sûr, de Facebook en Australie et ailleurs. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, selon le ministre du Patrimoine canadien, Stephen Guilbeault, la décision de Facebook en Australie était irresponsable. Toujours est-il que Facebook promet désormais $1 milliard aux médias et dit regretter sa fermeté en Australie. En tout cas, c'est un titre du Devoir que je viens de vous lire. Parlons-en tout de suite avec Nelly Brière et je vais la présenter correctement cette fois-ci. Elle est conférencière et consultante en communication numérique et réseaux sociaux. Voilà. Bonjour, Nelly Brière.
Bonjour.
Racontez-nous donc ça un peu du début. On avait parlé brièvement au professeur Patrick White lorsque l'événement a surgi dans l'actualité. Mm-hmm. Mais où est-ce qu'on en est à ce moment-ci? Puis si vous voulez quand même faire un retour là-dessus, pourquoi Facebook a posé ce geste, donc de bloquer les publications des grands médias d'information, je crois, sur sa plateforme en Australie. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui là-dessus?
Bien, en fait, c'est tout à fait logique, en réalité, de la part de l'entreprise, d'une entreprise comme Facebook, de réagir comme ça, parce que le projet de loi, était plutôt intense là, dans son ingérence dans une industrie, et faisait un peu fi du fonctionnement du web et ça aurait créé un précédent quand même important.
Alors, un projet de loi du gouvernement australien, donc.
Oui, exactement. Alors, c'est pour ça qu'ils ont changé leur fusil d'épaule, là, parce qu'il a été amendé, ce projet de loi-là, justement, en fonction des demandes ou, si on veut, des raisons qui ont fait en sorte que Facebook a retiré l'information de sa plateforme. Parce que l'information sur la plateforme de Facebook, premièrement, c'est pas vrai que Facebook, son modèle d'affaires, c'est de capitaliser sur des liens qui mènent vers les médias d'information. C'est vraiment mal comprendre l'écosystème parce que on a tendance à confondre avec des plateformes de consommation de contenu comme Netflix ou Spotify qui font véritablement leur argent dans la consommation de contenu. Mm-hmm. Dans le cas de Facebook, vous n'allez pas là-dessus principalement pour consommer des contenus, d'autant plus que les contenus ne sont pas hébergés par Facebook. Lorsque vous voyez des liens vers des articles d'information, c'est souvent des petites fenêtres là, qu'on appelle des thumbnails. J'ai pas le mot francophone là, en tête en ce moment. Là.
Oui, ben c'est ça, des petites fenêtres témoins à partir desquelles on a un coup d'œil sur un contenu. Là.
Exactement, et on nous incite dans le fond à cliquer pour aller lire l'article. Et là, Facebook avait des réticences par rapport à ça parce que, vous savez, c'est un peu, là, pour faire une métaphore puis mieux comprendre cette situation-là, c'est un peu comme si, tout à coup, on écrivait une loi et on demandait à tous ceux, toute l'industrie de l'automobile, de payer chaque fois que quelqu'un ouvre la radio dans les voitures, sans avoir de contrôle sur le nombre de fois que les occupants, que les utilisateurs ouvrent la radio, et en prenant pour acquis que les gens s'achètent des voitures pour écouter la radio.
Bien, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, ça doit être ça l'argument tout de même, c'est de dire, bien, c'est un argument de vente de plus pour vous. Hein,
oui,
c'est ce qu'on disait à Facebook.
C'est une valeur ajoutée, puis cette valeur-là, elle existe, puis les médias d'information ont tout à fait... c'est pertinent là, de demander que ce soit reconnu. Mais il faut que ce soit reconnu de part et d'autre. Il faut aussi que la valeur de la visibilité qui est donnée... Là, vous savez, là, la plupart des médias, là, le trafic qui est généré par Facebook est majeur. Là. Alors, même, je dirais qu'une partie du revenu des médias il provient du trafic généré par Facebook. Donc, on ne peut pas attribuer aucune valeur à ce trafic-là. Bon, c'est sûr que là, on se dit tout, mais voyons, les maisons d'information ont de la difficulté à se lancer. Les GAFAM ont énormément d'argent. Ils pourraient quand même contribuer.
Parce qu'on dit qu'ils ont, ils se sont attribués, appropriés une part de la tarte publicitaire. Hein? C'est ça qui est arrivé. En fait, une très grosse part.
C'est ça, exactement. Et c'est là que le bas blesse, parce que là, on parle d'un autre dossier, en réalité, qui n'a pas rapport avec ce projet de loi-là. C'est vrai que Facebook, Google encore plus, je dirais, en tout cas, bref, dans les parts de marché, là, ce sont des entreprises qui ont été capables de se renouveler d'une manière intéressante pour le marché de la publicité, entre autres avec les intelligences artificielles, ce qui fait que ben, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile, beaucoup moins coûteux et beaucoup plus rentable de faire de la publicité sur Facebook ou Google sur les plateformes numériques que sur un média d'information. Le problème des médias d'information, c'est peut-être justement que le modèle d'affaires soit basé sur le fait de vendre de la publicité, parce que ils doivent de facto performer dans deux secteurs différents, là. Performer en produisant de l'information de qualité, en plus de pouvoir s'adapter à ce marché qui est comme inadaptable actuellement parce qu'on est en compétition contre des gros joueurs à l'international qui ont des moyens qu'on n'est pas capable d'avoir ici à des échelles plus locales. Donc, mais, ça, c'est un problème qui est vrai.
Mais dites-moi, Nelly Brière, oui, allez-y, mais après, ou à un moment donné, dites-moi, qu'est-ce que le gouvernement australien essayait de faire? Faites-vous son avocate un instant pour qu'on comprenne son côté de son point de vue.
Bien, moi, je poserais plutôt la question, qu'est-ce que le manière de la presse, Rupert Murdoch, a essayé de faire? Parce que c'est plutôt ça qui s'est passé.
Aha.
Lui, oui, voilà. Alors, ce manière de la presse important, là, qui est un des plus grands à l'international, là même, ben il a voulu tenir un bras de fer avec Facebook et il a réussi à convaincre les élus, les politiques à écrire un projet de loi, mais qui, dans le fond, ne vient que d'essayer de prendre de l'argent de la tarte Facebook et de toutes les autres plateformes numériques et de la donner de la rediriger vers les poches des maisons d'info. Mais on va se dire quelque chose...
Mais même si c'est Rupert Murdoch, là, est-ce qu'on peut être contre ça dans un monde où plusieurs décrivent ce problème-là précisément, là, en disant l'argent est tout parti là? Hein, donc,
oui, sauf que l'argent... C'est pas que les médias qui ont un problème avec ça. Le GAFAM vient un peu perturber tout un écosystème qui est beaucoup plus large que simplement celui des médias. Moi, on pourrait vous parler de la culture, par exemple. Mm-hmm. Il y a des enjeux. Il y a toute une panoplie d'intermédiaires qui souffrent de l'arrivée de ces plateformes numériques-là. Et ça vient ébranler plusieurs industries aux échelles nationales. Alors, ça, c'est comme un peu un petit groupe, une petite gang qui s'est organisée pour aller chercher de l'argent. Puis ça a même été qualifié comme un modèle style extorsion là, par un des fondateurs du web, parce que justement, ça venait perturber la neutralité du web. C'est complètement... ça les mettait dans un cul-de-sac, en quelque sorte, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir aucun pouvoir de négociation. Tout ça a été amendé, là, qui était... inacceptable de ce projet de loi-là a été amendé, à mon avis, et c'est pour ça que Facebook s'est ravisé, là. Mais dans tous les cas, il faut penser peut-être davantage à des réglementations plus larges, peut-être qui proviennent même de l'OCDE et non pas à des échelles nationales, pour protéger les écosystèmes, pour protéger les industries et pas que celles des médias. Parce que là, les médias ont utilisé les médias là, pour faire valoir leurs points. On a vu toute la rhétorique... diffusé, puis là, on a l'impression, tout le monde, que ben oui, il faut absolument que Facebook accepte ce projet de loi-là. Facebook est donc même épouvantable d'avoir retiré l'information. Mais ce qu'il y avait d'épouvantable, quand on va regarder les détails puis qu'on comprend bien tout ça, c'était ce qu'il y avait dans le projet de loi, en fait.
Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'était pas nécessairement la méchante multinationale Facebook contre le gentil gouvernement australien, c'est qu'il y avait un lobby derrière les choix du gouvernement qui est pas nécessairement plus honorable que Facebook, exactement. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Exactement. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention à cette espèce d'angélisme qu'on donne au projet, qu'on voit tout de suite vertueux parce qu'on veut tous sauver nos maisons d'information. Et j'en suis, là. Sauf que je pense que c'est un faux moyen d'aller là parce que ça viendrait faire plein de... Ça pourrait avoir des effets avec lesquels on n'est pas super à l'aise a posteriori. Là. C'est un précédent incroyable parce que là, on vient affecter la neutralité du web, entre autres. Ça, vous savez, c'est toute une question qui touche aussi la liberté d'expression, qui touche plein de choses.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement? De quelle façon le projet de loi touchait à ce que vous appelez la neutralité du web? Qu'est-ce que c'est et pour quelle raison était-elle mise en cause? Là?
Ben, c'est que, vous savez, sur le web, on peut diffuser des liens. C'est ça la nature du web. On peut tout le temps établir une relation entre deux sites, pointer vers un site à travers des URL, OK? Oui. Et là, de faire en sorte que certains URL doivent payer...
Les URL, c'est les adresses, là, les petits liens.
Exactement, les adresses de sites web doivent payer pour avoir la même visibilité qu'un autre ou la même opportunité d'être repartagé. Ça vient toucher à la neutralité du web. Et c'est ce que ça faisait, parce que ça disait, bien, sur Facebook, vous pouvez partager tout ce que vous voulez, sauf les médias d'info. Parce que là, il va falloir que Facebook paye. Là, Facebook pouvait justement refuser la diffusion de ces liens-là. C'est ce qui s'est passé. Ils ont fait la démonstration que ça faisait pas de sens. Mais bon, je veux pas non plus rentrer dans tous les détails de la neutralité du web parce que c'est plus complexe que ça. Mm-hmm. Mais ça a un effet contre-nature de comment fonctionne le web, c'est-à-dire de pouvoir justement pointer vers différents sites et pas des sites qui ont des enjeux. C'est sûr que là, il y a des sites avec une valeur criminelle de porn, etc., qui sont interdits, mais ça, c'est à cause des politiques, puis c'est pas la même chose.
Non, là, ça peut être une hiérarchisation, disons, légale ou morale plutôt que économique ou commerciale dans ces cas-là. Dites-moi, Nelly Brière, je ne sais pas si vous avez une idée de ces chiffres-là, mais le partage, par exemple, d'articles d'information ou de liens vers des sites d'information reconnus des médias traditionnels versus les photos de chats ou autres repas d'hier là, ou autre chose, là, TikTok, je ne sais quoi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a touché beaucoup de monde, cette décision temporaire de Facebook en Australie?
Non, ça a probablement touché des gens qui sont peut-être plus audibles ou plus actifs sur la scène médiatique. Là, parce que, vous savez, sur notre site, nos fils d'actualité, là, on verrait entre 4 et 6 % maximum des contenus qui proviendraient de sites d'information ou de sujets politiques. Là. Donc,
ça, c'est les bébites comme vous et moi que ça a touché davantage
oui,
en Australie.
Exactement. Exactement. Mm-hmm. Parce qu'on est. Les gens qui s'intéressent, qui mangent l'actualité, eux ont été affectés parce que là, tout à coup, ben, votre nourriture centrale n'est plus là. Mais les gens qui vont principalement s'informer sur les plateformes numériques sont plutôt rares. Et non seulement ça, des bébites comme vous et moi, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, je suis abonnée au papier encore. Ben que,
ah, ben là, non, vous êtes vraiment une bébite. Nous, oui. Moi, je touche plus à ça.
Ah, voilà,
mais,
bon.
Mais dites-moi, parce que le temps nous bouscule, Nelly Brière, quand même, là, faut que je vous demande, Facebook, c'est quand même pas non plus le gentil garçon par excellence. Si on parle d'équilibre, Facebook, c'est si gigantesque et ça fait peur tout de même.
Mais c'est plus que Facebook. Il faut arrêter de personnifier un peu.
Non, on pourrait dire les GAFAM, enfin.
Exactement. Ce sont tout, en fait, c'est la possibilité de ces entreprises-là qu'il faut questionner et non pas qui est derrière.
Est-ce que les médias viennent de perdre contre eux? Là?
Oui. En fait, ce que les médias ont perdu. En fait, je pense que c'est pas est-ce que les médias ont perdu parce qu'on aurait perdu autre chose si le deal n'avait pas été amendé. Dans tous les cas, je pense qu'il faut se questionner sur OK, comment se fait-il que ces entreprises-là ont autant de pouvoir et comment on peut faire pour limiter celui-ci ou pour protéger justement certains écosystèmes qu'on veut protéger, comme par exemple notre culture, notre langue, nos sites d'information, etc. Alors, comment on fait ça? Alors, c'est cette question-là qu'il faut se poser et non pas comment contre-attaquer, comme si c'était une attaque ciblée. C'est pas une guerre, en fait, qu'il faut livrer, c'est plutôt une réflexion pour encadrer tout ça, à mon avis. Parce que il y en aura d'autres, ça va continuer à évoluer, puis tant qu'on laissera l'espace à ce genre de pouvoir mondialisé, là, ben on n'arrêtera pas de voir des écosystèmes être affectés par ça, là.
Nelly Brière, vous êtes, je vais y arriver, conférencière et consultante en communication numérique et réseaux sociaux. Je ne vais pas me tromper de titre. Merci beaucoup de nous avoir éclairé un peu là-dessus. On va regarder ça d'un autre œil désormais. Il y aura peut-être d'autres invités qui viendront nous dire que vous vous trompiez, mais on vous donnera à nouveau la parole.
Je suis en train d'écrire un article pour les risques là-dessus pour essayer justement de coucher ça sur papier parce que c'est difficile de faire ça en quelques minutes en entrevue radio. Là. Bon. Il y a plein de couches tout ça. Là, voilà.
Alors, en attendant, on vous visite sur votre site web ou sur Facebook. À bientôt.
Voilà.
Brière.
Bonne journée.
À une prochaine. Dans un instant, chers auditeurs, Nicolas Vidal en direct de Paris pour nous parler de Nicolas Sarkozy et de ses péripéties judiciaires.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, l'ex-président français Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable lundi dernier de corruption et de trafic d'influence. Il a écopé d'une peine de 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. Il va interjeter appel. Ça surprend, ça saisit tout de même, en tout cas vu d'ici, des gens des politiciens de ce calibre, de ce niveau, qui se retrouvent condamnés à la prison. Parlons-en tout de suite avec Nicolas Vidal, directeur de Putsch Media. Il est à Paris. Bonjour, Nicolas Vidal.
Bonjour, Nick.
Alors, que comprendre de cette nouvelle vue du Québec? On ne s'habitue jamais. Alors, on se souvient de Jacques Chirac, qui avait été condamné lui aussi, mais à un sursis, je crois, d'un an ou deux. Alain Juppé, déjà, qui a fait une sorte de passage à vide après une condamnation assez grave, mais qui a été réhabilité suffisamment pour être candidat pendant un temps, du moins. Il était en principe principe, il allait devenir le candidat des Républicains à la présidentielle. À quoi assiste-t-on? Est-ce qu'il y a du spectacle dans ça? Est-ce qu'il y a une lutte politico-judiciaire motivée par des intérêts plus ou moins nobles? Ou est-ce que Nicolas Sarkozy est vraiment, à ce moment-ci, aussi coupable de corruption qu'on ne le dit?
Alors, vous m'enlevez les mots de la bouche, Nick, parce que c'est vrai que c'est une vraie polémique ici politico-judiciaire en France, vous l'avez dit. C'est une première pour un président de la Ve République, cette affaire. Alors, je rappelle les faits, vous l'avez fait, mais je le dis et je vais ajouter des petits éléments. Bien entendu, l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a été condamné lundi 1er mars à 3 ans d'emprisonnement dans œuvre ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Et je vais vous expliquer ce que c'était, ça, faire des écoutes.
Bien sûr.
Alors, cette enquête a été lancée en 2014 sous la base d'interception téléphonique avec son avocat Thierry Herzog, qui est aussi un grand ami Nicolas Sarkozy, et l'ancien président français a annoncé qu'il comptait faire appel il y a 2 jours de ça. Alors le tribunal correctionnel, lui, il a estimé qu'il y avait un pacte de corruption qui avait été conclu entre l'ex-président Nicolas Sarkozy, maître Thierry Herzog, son avocat, et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, tous deux également condamnés à 3 ans de prison, dont un ferme, et pour l'avocat de Nicolas Sarkozy, c'est 5 ans d'impossibilité de faire son boulot d'avocat. Alors, l'accusation s'est notamment appuyée sur des échanges téléphoniques entre l'ancien chef de l'État et son avocat par le biais d'une ligne téléphonique enregistrée au nom de Paul Bismuth. Voilà un peu le cadre.
Le magistrat en question devait, en vertu de cette entente, favoriser Nicolas Sarkozy dans un dossier une autre affaire.
C'est ça, Nicolas Sarkozy, en fait, il était accusé d'avoir tenté d'obtenir en 2014, par l'entremise de son ami et avocat Maître Herzog, des informations secrètes auprès du fameux haut magistrat, vous l'avez dit, Nick, Gilbert Azibert, dans une procédure concernant notamment la saisie de ses agendas en marge de l'affaire Bettencourt, des informations qui devaient être délivrées par le magistrat en échange d'un coup de pouce pour un poste de prestige. Vous voyez, c'est cet entremêlé de faits qui a laissé la justice un peu pantoise. Donc finalement, devant le tribunal, la défense des avocats, donc Sarkozy a insista sur le fait que l'ancien président n'avait rien obtenu devant la Cour de cassation et que Gilbert Azibert n'avait jamais eu de poste à Monaco. Mais, selon la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la contrepartie ait été obtenue, ni que l'influence soit réelle pour caractériser les délits de corruption.
Bah justement,
et de trafic
d'influence. Ça n'a pas eu de résultat, donc, cette démarche, semble-t-il, de corruption. Mais dites-moi, Nicolas Vidal, est-ce que ces faits qui sont reprochés à Nicolas Sarkozy sont, dont il est trouvé coupable à l'heure où on se parle, sont de l'ordre de l'ordinaire dans les hautes sphères politiques françaises et à partir de ça, on aurait voulu punir Sarkozy pour d'autres raisons ou est-ce que c'est vraiment particulier à lui cette culture de sinon de corruption, en tout cas de pression et de retour d'ascenseur?
Alors, il faut dire que ce qui a été instruit, c'est le parquet national financier qui a ouvert l'enquête, après qu'il a transmis au tribunal devant des juges d'instruction indépendants. Et le parquet national financier, il faut recadrer les choses. Il est né, en fait, en 2013, suite au scandale politico-financier, rappelez-vous, de l'affaire Cahuzac. L'affaire Cahuzac qui révélait l'existence d'un compte caché en Suisse.
Ministre socialiste qui était ministre de la rigueur ou de la morale.
Le ministre délégué en charge du budget. C'était pas encore Pierre Moscovici, mais pas loin. Finalement, qui reconnaîtra les faits qui lui seront reprochés. Et cette institution, finalement, elle a été créée par qui ? Par François Hollande, qui l'a créé. Il a créé la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Il a créé également l'Office Central de Lutte contre la Corruption et les Infractions Financières et Fiscales et ce fameux Parquet National Financier. Alors, sa compétence, normalement, elle se porte sur les infractions économiques et financières les plus graves. Les enquêtes répondent à critères de complexité de l'affaire. Et pour répondre à votre première question, Nick, effectivement, la droite, aujourd'hui, elle tire à boulet rouge sur la justice, notamment sur ce Parquet National Financier qui est accusé d'acharnement à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Et plus largement, il est remis en cause son indépendance de la part de la droite et de certains journalistes. D'ailleurs, ça fait pas mal de polémiques et de remous ici. Et je vais vous dire encore plus, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dénoncent également un jugement politique. Imaginez-vous, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon
sont réunis. Alors, dire que ce propos, ce discours tenu par la droite, qui est rejoint ici par Mélenchon et par plus à droite Marine Le Pen, est valide? Est-ce que vraiment il y a est-ce qu'il y a preuve quelque part d'un acharnement sur Nicolas Sarkozy?
Alors certains, effectivement, disent qu'il n'y avait rien, puisqu'il n'y a rien eu d'obtenu, ni de la part de Nicolas Sarkozy, ni de la part du haut magistrat. Mais il y a deux camps, hein. Il y a deux camps très, très clairs. D'ailleurs, le Mediapart a sorti, a publié, je crois, hier ou avant-hier, le dossier d'instruction, pardon, qui fait plus de 250 pages pour montrer que finalement, il y a eu un travail remarquable des magistrats. D'ailleurs, les magistrats sont contents parce que, avec cette décision juridique, Nick, le parquet national financier, finalement, il est renforcé par la condamnation de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, François Hollande, il y a quelques minutes, dans un article dans le Parisien, monte en barre en brèche, finalement, les accusations de non-indépendance de la justice et dit que la justice est totalement indépendante et qu'il a bien fait, grosso modo, entre les lignes, d'avoir monté d'avoir créé ce parquet national financier pour aller traquer les affaires politico-économiques, financières. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, Nick, rappelez-vous, François Fillon, en février 2017, François Fillon, c'est le parquet national financier, effectivement, qui décide d'ouvrir une information judiciaire à l'encontre de ce dernier.
Ce qui vient nourrir ceux qui disent que c'est une démarche politique initiée par François Hollande pour faire mal à la droite, d'une certaine façon. Mais le temps nous bouscule, il reste 2 minutes, oui. Nicolas Vidal, à quoi peut-on s'attendre pour la suite des choses? Et Nicolas Sarkozy fait face à d'autres obstacles judiciaires.
Il a une trajectoire judiciaire en parcours judiciaire. Il ne sera pas tenté celui-là parce que Nicolas Sarkozy, il va reparaître devant la justice le 17 mars prochain, cette fois dans l'affaire Big Malion, pour des soupçons de financement illégal de sa campagne en 2012. Vous voyez, Nicolas Sarkozy, en ce moment, il passe plus de tribunal que dans les stations de ski. Affaire à suivre, mais dernière pour finir très vite là-dessus, Nick, ça posera toujours le problème de la République des juges. Est-ce que les juges, finalement, mettent à mal la démocratie en rendant des affaires, en étant indépendants ou dépendants? Ça, c'est la grande question qui va se poser de plus en plus. Et je ne vous parle même pas du niveau européen, mais la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà un peu le cadre.
Alors, c'est à suivre. On se souviendra de ce mur des cons. Hein. Rappelez-le-nous, c'était Nicolas Sarkozy qui, sur un mur... Expliquez-nous, là. Je ne me souviens pas exactement.
Oui, c'était le samedi de la magistrature. Effectivement, il y avait toute une série de photos de victimes, de gens qui avaient porté plainte, destruction en cours. Et ça avait été découvert par une vidéo, je crois, ou des photos, je ne sais pas. À l'époque, il y avait encore Twitter qui était très massif, mais ça avait fait un énorme scandale et ça avait amené au moulin, ça avait apporté de l'eau au moulin de cette République des juges, gouvernement des juges.
Et de ceux qui disent, voyez, les juges sont politiquement... Oui, alors c'était dans un bureau de magistrat. Oui, voilà.
Si, voilà. C'est la question centrale en France en ce moment. Et ça n'est pas prêt d'arrêter.
Bon, alors Nicolas Vidal, on vous souhaite de ne pas devenir trop important, assez important pour avoir des péripéties judiciaires comme celle-là, ou alors au contraire, on vous le souhaite, si telle est votre ambition, mais soyez prudent.
Je reste indépendant et convaincu, mon cher Nick.
Bon, parfait, voilà. Je n'accepterai aucun pot de vin de votre part, peut-être un verre de vin à la rigueur, lorsque nous serons déconfinés. Nicolas Vidal, directeur de Putsch Media à Paris, merci d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. À la prochaine.
Bonne journée.
Et à vous. Au revoir. Alors, chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit encore une fois merci d'avoir été à l'écoute de Société cette semaine et à la semaine prochaine. Entre-temps, bonne semaine à l'écoute de Radio-VM, bien sûr. À la prochaine.